Salut, ici Ziad Malouf. Je suis très heureux de vous revenir après cette belle pause estivale. Je suis plus heureux encore d'ouvrir cette année d'atelier avec l'histoire que vous allez entendre aujourd'hui.
L'atelier des médias, Ziad Malouf.
Si vous faites partie des fidèles de cette émission, vous aurez peut-être remarqué que contrairement aux 7 dernières années, nous ne sommes pas au festival Visa pour l'image en cette rentrée 2018. Mais par sympathie pour cet événement dédié au photojournalisme, nous avons tout de même choisi de consacrer l'émission de ce jour à la photo. Elle est d'ailleurs signée cette émission Arnaud Contreras qui, en plus d'être producteur radio, est photographe.
Ouais Arnaud.
Salut.
Ça va?
Ouais, nickel et toi?
Ouais, pas mal du tout.
Ouais, c'était bien brouillé hier.
Ouais.
Ce que vous entendez est une conversation que nous avons eue avec Arnaud au téléphone le 14 février dernier. Elle faisait suite, cette conversation, à un mail qu'Arnaud m'avait envoyé 2 jours plus tôt et que je te propose de lire, je te propose d'en lire quelques extraits, Arnaud.
Coucou Ziad, j'espère que tout roule. J'aimerais bien te proposer un sujet d'enquête pour l'atelier. L'effacement des photos en 2 volets sur les archives des photojournalistes. Je suis effaré par le nombre de photojournalistes, de photographes documentaires et de photographes spécialisés dont les archives disparaissent dans la nature, quand ils cessent leur activité, changent de métier ou à leur mort. On en reparle quand tu as le temps. La bise, Arnaud.
Donc ça, c'est ton mail du 12 février. Retour à la conversation qui l'a inspiré 2 jours plus tard, donc le 14 février.
Du coup, ouais, j'ai reçu ton mail. Pour être précis, moi, l'idée des questionnements autour de la mémoire à l'ère du numérique, je trouve ça super intéressant. Limiter ça à la photo, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Enfin, on peut peut-être ne pas limiter, quoi. Voilà, c'est un peu ça.
En fait, il y a 2 aspects, quoi. Donc, je t'envoyais, il y a le fait que... c'est vrai, mais il y a une partie de la mémoire, en fait, visuelle, hein, qui est en train de disparaître dans des caves, dans des greniers, et sur des disques durs aussi, quoi. Enfin, tu vois, il y avait vraiment les 2 aspects, quoi.
Voilà, vous venez d'entendre la genèse de l'émission que nous vous proposons aujourd'hui avec Arnaud. Arnaud qui, vous l'aurez compris, a eu gain de cause et a pu concentrer son travail sur la photographie. La mémoire des images, c'est un essai radiophonique signé Arnaud Contreras pour l'atelier des médias. Réalisation Simon de Creuse.
atelier@rfi.fr.
Ok, on va faire un petit test micro.
Oui, voilà. On va se balader dans l'appart et regarder un petit peu, décrire en situation.
Elle, c'est Marie-Hélène Fraissé, écrivaine, journaliste, productrice radio et femme d'Alain Dister, mon ami photographe. Un ami qui, il y a 10 ans, m'a demandé sur son lit de mort que je m'occupe de ses archives, de ses photos, pour qu'elle ne meure pas.
Alors nous sommes à Montmartre, sur la rue des Abbesses, donc c'est l'appartement que j'ai partagé pendant 20 ans avec Alain Dister, qui était mon mari, photographe, rock critique, écrivain.
Alors qu'est-ce que tu as derrière toi? Tu as un placard, et qu'est-ce qu'il y a dans ce placard? Est-ce qu'il y a des choses liées à Alain? Il y a des tirages?
Oui, il y a des boîtes de tirages, donc, puisque de son vivant, il a fait un certain nombre de tirages, donc à l'ancienne, un tirage noir et blanc, qui sont des tirages que je conserve scrupuleusement, parce que pour les tirages de son vivant, je ne sais pas encore exactement quoi en faire. Enfin, je considère que c'est un peu un petit trésor de guerre. Donc, en revanche, il y a aussi quelques tirages actuels post-mortem qu'on a fait faire, qu'on a vendu, exposé. Voilà, donc toute son œuvre, en fait, est rassemblée avec les négatifs, avec les boîtes contact, avec les dias. Voilà, c'est tout ça disséminé au milieu de la vaisselle et des assiettes et des couverts. Sa vie avec nous.
Je vais te suivre dans l'appartement.
Voilà, donc c'est les lieux de vie avec des enfants, des petits-enfants. Et puis là, alors j'ai eu la chance jusqu'à maintenant de pouvoir garder le bureau d'Alain. Pas du tout parce que je suis fétichiste, mais parce que je souhaite séparer le travail que je fais sur Alain de mon propre travail d'écrivain et de journaliste, parce que c'est parfois un petit peu lourd d'avoir à porter l'œuvre d'un autre, surtout quand on n'a pas été sa collaboratrice, mais sa compagne et la personne avec qui discutait de son travail. Mais j'ai jamais géré ou co-géré son travail. Donc son bureau est à l'identique, les négatifs sont là. Et ça me permet aussi de respecter son mode de rangement, qui était un peu particulier, parce que quand quelqu'un disparaît et qu'on n'a pas été associé en profondeur à son œuvre, on a un petit peu de mal à comprendre où sont les choses. On me demande des images de Jimi Hendrix. Ah, il est où Jimi Hendrix en noir et blanc? C'est là. Ah oui, mais j'ai fini, j'ai mis du temps. Voilà. Donc en gardant le bureau dans un premier temps classé comme il l'avait fait, j'ai pu plus facilement me repérer. Et puis petit à petit, je reclasse ou je saisis plutôt les données de manière à ce que moi-même et puis le groupe d'amis qui travaillent autour de l'œuvre d'Alain puissent savoir où sont les choses, même si c'est un classement un peu atypique, parce qu'il a classé par exemple ses images iconiques dans des classeurs quasiment d'écoliers, quoi. Et parfois qu'il faudrait changer parce que en termes de conservation ça posait problème. Voilà, donc on avance, on arrive à se repérer et à faire connaître un petit peu.
Né en 1941, Alain Dister était photographe, écrivain, passeur de culture. En 1965, il part pour New York, file ensuite vers San Francisco, appareil photo en bandoulière. Les beaux hasards de la vie et sa curiosité ont fait qu'il a très vite rencontré les plus grands écrivains, musiciens, activistes du mouvement hippie. Alain vivotait en envoyant en France des images et des articles sur la révolution culturelle américaine des années 60. Lorsque je me plonge dans les images d'Alain, je vois les photos des musiciens qu'il a côtoyés. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Frank Zappa. Je vois des images de soirées avec les grands penseurs de la Beat Generation, Allen Ginsberg, Michael McClure. Mais je vois surtout des centaines d'inconnus, ce public de concerts, de festivals, de réunions qu'il a photographié pendant 50 ans. Et c'est vertigineux. Quand Alain m'a demandé que ces images ne meurent pas, il m'a aussi peut-être demandé que ces visages d'inconnus ne disparaissent pas. Je suis documentariste et photographe, mais quand Alain Dister est mort, en 2008, je n'y connaissais absolument rien en conservation et en transmission des images. J'ai dû apprendre sur le tas, et je me suis tout de suite rendu compte que cette histoire nous concerne tous. Cette envie que l'œuvre d'Alain ne disparaisse pas dans ses tiroirs ou dans des caves m'a amené à me poser des dizaines de questions. Que fait-on de nos images, de nos photographies? Que faire de toutes les images que nous prenons avec nos téléphones, avec nos tablettes, avec nos appareils photo? Est-ce que c'est si important que cela de conserver nos images? Je n'ai toujours pas de réponse, mais j'ai rencontré de nombreuses personnes qui toutes, d'une manière ou l'autre, se sont elles aussi posées ces questions.
N'importe qui aujourd'hui a sa mémoire photographique non imprimée, sur support non pérenne, ça sera perdu. Ça sera perdu parce que déjà les institutions suréquipées perdent.
Donc là, on est sous les toits, dans une chambre d'un appartement privé, et tu conserves toute l'œuvre d'Alain, ses négatifs, ses planches contacts, ses diapositives. Est-ce que tu n'as pas envie que ça soit dans un autre endroit? Est-ce que tu n'as pas envie que cette œuvre soit conservée différemment? Parce qu'il y a un risque quand même à ce que ce soit chez toi.
Oui, alors en ce moment, justement, je navigue dans cette réflexion. Ce n'est pas simple, parce qu'il y a une double injonction par rapport à une photographique, la conserver, la faire connaître. La conserver, il y a évidemment une solution radicale qui consiste à confier la totalité de cette collection à une institution. Mais les institutions ne sont pas là, comme la BNF, Willimek, ne sont pas là en général pour gérer des fonds photos, sauf si ce sont des photos de stars de la photo, donc qui peuvent produire sans aucun problème, des expos, etc. Donc le problème dans ce souci de conservation, c'est qu'on peut toujours donner à une institution, ça va être des cartons, et c'est peut-être dans 50 ans que quelqu'un va vraiment commencer à travailler les cartons. L'autre solution, c'est de gérer l'œuvre. Mais le problème, c'est qu'à un moment, il faut qu'une œuvre, pour qu'elle soit vraiment gérée efficacement, produise de l'argent pour que les gens qui y travaillent puissent quand même en tirer un revenu. Sinon, moi, je le gère de manière un peu sentimentale, je dirais, c'est pas prioritaire. Mais archiver, c'est fastidieux. Je veux dire, archiver, passer des journées à archiver, bon, pendant ce temps-là, la personne qui archive, elle a son loyer à payer, ses enfants à élever. Donc, il faut arriver à trouver un flux financier, rentrer suffisamment d'argent pour payer ceux qui travaillent l'œuvre. Et c'est là que c'est très compliqué, si ce n'est pas une œuvre qui, de son vivant, a été une œuvre star. C'est un problème aujourd'hui, je ne sais pas comment on va le résoudre, parce qu'il y a des fonds photographiques énormes du XXe siècle, magnifiques, et des institutions qui prennent les photos des très grands photographes, mais le reste a de l'intérêt. Et je pense qu'une œuvre comme celle d'Alain, elle a de l'intérêt comme témoignage, elle a aussi un intérêt artistique, mais ce n'est pas aussi évident qu'une œuvre qui a été célèbre de son vivant. En revanche, ça serait dommage de la disperser, de faire des ventes à bas prix, enfin ou de la négliger. Donc, c'est compliqué. Je pense que le temps passant sur ce type d'œuvre, qui n'est pas une œuvre de photographe à temps complet, puisqu'il était aussi écrivain, je pense que le regard va changer. Il était écrivain et collectionneur. Il a conservé aussi beaucoup de choses de ce qu'il a vu. En gros, son thème, c'est la marge, la contre-culture, les mouvements de jeunes. Donc, en gros, les hippies, les punks, Beat Generation, les mouvements de la jeunesse, donc à la jointure années 60-70. Mais c'est un regard qu'il a continué de poser sur la communauté gay, sur les concerts aussi marginaux. Ça l'intéressait toujours plus de photographier un petit concert de punk de banlieue que d'aller à l'Olympia. Il n'a pas fait une carrière du type de celle de son ami Jean-Pierre Leloir, qui lui photographiait donc les stars, pas seulement d'ailleurs, mais il était systématiquement. Donc tout ça, c'est atypique. Et une œuvre atypique, on ne sait pas ce que ça devient dans le futur. Ça peut être considéré comme extrêmement mineur, ça peut aussi intéresser d'autres gens.
Alors, on est aussi face à un ordinateur qui n'a pas bougé depuis 10 ans, et face à deux disques durs.
Oui.
Est-ce que tu prends en compte cette mémoire numérique aussi ?
Oui, bien sûr. Effectivement, les disques durs donc, sont remplis des numérisations qu'Alain avait faites. On en a rajouté quelques-unes. Donc ça me rassure beaucoup. Parce que bon, je sais qu'un disque dur, ça ne dure pas un demi-siècle. Mais pour l'instant, les photos numérisées sont là. Et les photos que lui-même a jugées les plus importantes. Donc non. L'avantage justement de l'ère numérique, c'est qu'on peut quand même sauver des photos, puisque Alain était en deuil d'un certain nombre de clichés, de négatifs qu'il avait laissés chez une agence qui a disparu corps et bien très rapidement à la grande époque 60s et qui s'appelait Givaudan. Et Givaudan a perdu plusieurs rouleaux de négatifs de l'époque vraiment la plus importante du travail d'Alain. Ça, on risque moins ça aujourd'hui si on numérise. Évidemment, c'est un peu rassurant aussi pour ceux qui sont dépositaires d'une œuvre, c'est que quand ils font le travail de numériser, qui est un travail coûteux et qui demande beaucoup de temps, bon, là déjà, on peut partager, on sait que la sauvegarde est assurée. Ça, c'est très important. Très important. Très important.
Pendant des mois, après sa disparition, je suis venu dans le bureau d'Alain, sous les combles de son immeuble. J'étais un peu effrayé de voir que tous les négatifs étaient stockés dans cet endroit. Et s'il y avait une inondation, une fuite dans le toit ? Ou est-ce que la chaleur estivale n'allait pas endommager ses archives ? J'ouvrais des boîtes, regardais les photos, lisais les légendes qu'il avait écrites au dos. Et je ne savais pas trop par où commencer ce travail de mémoire. J'étais même persuadé que je n'arriverais pas quelque part, qu'il n'y aurait pas de résultat énorme. Mais ça valait le coup de tenter. Mon premier réflexe a été de téléphoner à certains de ses amis photographes. Et à chaque fois, le même sentiment. Ils sont adorables, veulent nous aider, mais eux aussi, ils ont peur de ce que vont devenir leurs images après leur mort. Avec Marie-Hélène et les proches d'Alain, nous nous sommes dès le début interrogés sur la valeur de l'œuvre d'Alain, la valeur artistique comme la valeur financière. Pas pour imaginer des profits, plus pour tenter d'imaginer dans quelle fondation, musée, galerie, on pourrait déposer son œuvre. Rencontrer les institutions photographiques en France, c'est un long chemin sur lequel on peut vite s'épuiser, tant elles-mêmes semblent être à bout de souffle. Mais ces fondations, ces institutions, sont aussi peuplées d'êtres passionnés, dévoués. Parmi ceux qui travaillent dans le milieu de la photographie, les historiens ont le rôle d'écrire ou de réécrire l'histoire des photographes. Ils connaissent bien les questions de conservation, d'archivage, interrogations assez centrales, assez essentielles dans cette quête.
Michel Poivel, est-ce que dans votre quotidien, vous êtes exposé au problème de transmission de la photographie, de préservation de la photographie, non pas d'un point de vue technique, mais du point de vue de l'œuvre?
L'historien de la photographie y est confronté en permanence, puisque je dirais qu'il invente ses objets. On a bien sûr toutes les collections conservées par des institutions, publiques ou privées, qui pour la plupart ont été versées de manière massive ou sur des longues durées, la Bibliothèque nationale par exemple, et qui nécessitent des traitements, alors des traitements bien sûr de conservation préventive, mais aussi des traitements intellectuels et historiens. Donc l'historien de la photographie, il est en permanence confronté à ces massifs. Par ailleurs, il est aussi confronté, quand il s'agit de photographes actuels, vivants ou récemment disparus, à la question du devenir de ces ensembles. Il ne faut pas oublier qu'un photographe, quelle que soit sa durée de vie, produit énormément. C'est sans comparaison avec un sculpteur, même un dessinateur. Un photographe, c'est quelqu'un qui va sortir dans la rue, partir en voyage et réaliser, s'il est en argentique, des dizaines de pellicules de 24 ou 36 poses, ou bien s'il est en numérique aujourd'hui, alors des stocks, on va dire, de fichiers. Donc on a toujours été, par rapport à la photographie, face à la question du traitement de masse, hein, et de la question de l'editing, du coup. Et surtout, quand les photographes disparaissent, comment les ayant droit, s'il y en a, j'allais dire, soit valorise, soit se débarrasse. Et c'est un peu les deux faces du même problème. Alors se débarrasse, alors c'est toujours pareil, hein, l'histoire de la photographie, elle est faite de disparitions, de plaques de verre jetées, d'abandon d'albums qui pourrissent dans les greniers. Et puis aujourd'hui, la conscience patrimoniale est éveillée, on va dire, en raison des progrès, de la valeur prise par la photographie dans notre culture en général, et je dirais dans l'art contemporain en particulier. Et donc on a très souvent maintenant, que ce soit une production par exemple de photojournalistes, ou que ce soit une production vraiment d'artiste avec un photographe qui a exposé, qui a publié des ouvrages, cette question de dire oui, mais bon, qu'est-ce qu'on fait de ces négatifs, qu'est-ce qu'on fait de ces planches contact qui, je dirais, peuvent rentrer parfois dans une grosse armoire, mais nécessitent d'être regardées, préservées et surtout interprétées et valorisées d'un point de vue historique et esthétique. Et c'est là que la difficulté commence, parce que on peut très bien se dire on ne va pas jeter, on va faire l'effort de conserver, mais pourquoi, pour combien de temps, pourquoi faire? Et je dirais que les ayants droit que je rencontre, il y a un petit peu deux types de personnes. Il y a ceux qui sont persuadés qu'ils ont un trésor et qui ont envie de le vendre. Ils sont persuadés qu'en France ou même à l'étranger, ils vont pouvoir faire fortune comme ça. Bon, on les rassure rapidement sur le fait qu'il y a forte chance que personne n'en veuille, mais sauf exception. Mais les exceptions, souvent, ce sont plutôt des gens qui ont conscience parce que ils ont accompagné le photographe, ils l'ont connu, il a eu une carrière qui a là une richesse, on va dire, plutôt qu'un trésor. Et dans ces cas-là, l'option, c'est: est-ce qu'on crée une association de valorisation? Est-ce qu'on crée une fondation, si on peut le faire? Et quand on commence à s'embarquer dans cette aventure, moi je l'ai vécu depuis une dizaine d'années avec la fondation du photographe Gilles Caron, dont la famille s'est saisie il y a une dizaine d'années de cet ensemble, qui a reconstitué aussi tout cet ensemble, parce que un photojournaliste comme Gilles Caron a essaimé ces images dans les rédactions, dans les agences professionnelles. Et donc cette famille a reconstitué le plus possible cet ensemble, a commencé à faire un travail de numérisation, ce qui aujourd'hui n'est pas absolument l'alpha et l'oméga de la valorisation, mais permet la diffusion.
Michel Poivert, vous parlez de la mémoire photographique en général, mais vous ne faites pas de différence entre la mémoire photographique argentique et la mémoire photographique numérique?
Alors oui, moi je suis plus axé sur une mémoire photographique d'historien, avec cette espèce de vision des grandes stases que sont les époques anténumériques et numériques. Mais si vous voulez, je crois que le problème beaucoup plus large, hein, auquel l'historien d'art peut difficilement répondre, de la mémoire photographique aujourd'hui, c'est ce que va être la perte, finalement, de tout ce qu'il y a dans nos ordinateurs. n'importe qui aujourd'hui a sa mémoire photographique, alors là on vient sur l'album numérique, hein, non imprimé, sur support non pérenne, ça sera perdu. Ça sera perdu parce que déjà les institutions suréquipées perdent. Et là encore, ironie de l'histoire, on voit des institutions comme la médiathèque d'architecture et du patrimoine qui finalement, après avoir perdu à un moment donné des données numérisées, repassent par des phénomènes de reprographie argentique. C'est-à-dire qu'on sait que la reprographie argentique, c'est quelque chose de stable dans le temps. Alors, entendons-nous, un temps humain, hein, sur quelques générations. Mais néanmoins, on sait qu'avec un négatif argentique, on pourra faire des tirages s'il est bien préservé. On sait très bien qu'avec une mémoire de fichier informatique, il faudra se rééquiper de manière très régulière avec des reconversions. Probablement que la mémoire numérique en termes d'images et de photographies, ça sera un des grands enjeux des affects à venir. Et je crois qu'il y a des métiers à inventer là aussi sur le sauvetage des données familiales dans les ordinateurs et les portables de toutes sortes. Peut-être que c'est déjà peut-être même les beaux jours de l'édition. Hein. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des sociétés qui éditent en ligne les albums de famille, les voyages, le papier, même s'il s'altère, on sait qu'il s'altérera, c'est quand même la seule alternative pour qu'une mémoire photographique numérique soit préservée.
Est-ce que ça veut dire que tout ce qui est photographie de la société depuis 20 ans risque d'être perdu aussi ? Parce qu'elle n'a pas été argentique, elle a été numérique. Est-ce qu'il y a une perte en termes de données sociologiques, en termes d'études, aussi en histoire de l'art, en fait, sur plus qu'à la période argentique ?
Ça, j'en suis pas sûr, parce que si vous voulez, les productions artistiques s'en sortent très bien, pour des raisons de moyens et de mise en œuvre. Qu'un photographe travaille à un moment donné avec des prises de vue numériques, s'il produit son image, s'il la tire sur des papiers qui vont être encore une fois plus ou moins solides, etc. L'artiste, il va au bout d'un process, ce qui n'est pas le cas de l'amateur, qui va peut-être conserver ça dans son téléphone, dans la mémoire numérique, etc. Pour la société, il y aura probablement un grand effacement, pour des raisons économiques, c'est-à-dire que ça va coûter trop cher de tout conserver. En même temps, dans ce grand effacement, il y aura la perte qu'il y a toujours eu dans les sociétés en termes de représentation. Les journaux sont abîmés, se sont perdus, les gratuits se perdent, etc. Ce qu'on appelle les éphémérias aujourd'hui sont très rares. Je dis souvent, aujourd'hui, un magazine illustré du 19e siècle est plus rare même qu'un tirage photographique, parce que imprimé, jeté, parce que la fibre du papier était économique. On sait très bien que le grand problème du papier à partir de la fin du 19e siècle, c'est l'industrie du papier qui fait qu'il ne se conserve pas, qu'il devienne cassant et tombe en poussière, ce qui n'était pas le cas bien sûr des papiers de qualité avant. Le monde de l'art, du beau métier, s'en sort toujours en termes de mémoire, d'une certaine manière. C'est plutôt, effectivement, tout ce qui peut être photographié, tourné en numérique, qui nécessitera des traitements permanents. Et je crois qu'un des grands chantiers à venir, d'un point de vue industriel, c'est le retraitement de cette mémoire numérique. Alors bon, il y aura de la perte. Après, on fait aussi, la mémoire, c'est ça, hein, notre mémoire collective, elle fait avec ce qu'elle trouve, avec ce qu'elle retrouve. Il y aura des explorateurs de cette culture numérique. Mais il est vrai que finalement, le print, le fameux print, comme on dit aujourd'hui, la plus-value à l'imprimerie, pas oublier qu'on était persuadé que l'imprimerie allait disparaître, que l'avenir allait être, par exemple, le livre numérique. C'est une catastrophe économique, le livre numérique. En France, en Europe et ailleurs, on continue à acheter des livres papier, c'est ce qui se vend. Le livre numérique n'a pas trouvé son économie. Ils ont essayé, il y a eu beaucoup d'investissements, mais vous parlez aujourd'hui avec les éditeurs, ils ne vendent pas de livres numériques. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que finalement, on est toujours dominé par l'espèce d'idée de progrès, mais quelle est la réalité économique des choses ? Cette réalité économique, elle correspond à des désirs, à des besoins, qui sont ceux des citoyens des différents pays. Donc oui, il y a une mémoire photographique, à mon avis, qui est préservée par des intentions artistiques ou esthétiques. À côté de ça, il y aura de la perte. Après, de là à se mettre, ça sera intéressant de se dire, est-ce qu'on va raconter l'histoire de ces 20 dernières années à travers le regard des artistes ? Parce que c'est ce qui va rester. Ça serait assez amusant, parce qu'on sait bien que l'artiste est quelqu'un qui a une façon de projeter le monde qui lui est propre et parfois très fantasmagorique, voire fantasmatique. Oui, c'est comme si on disait, on va faire l'histoire du 19e siècle à travers ses tableaux. Et c'est peut-être un peu ce qu'on fait d'ailleurs.
Alain Dister, mon ami, était-il journaliste ou artiste ? Habitude bien française, ce besoin de coller des étiquettes. On nous a souvent dit qu'il serait plus facile de préserver et de transmettre l'œuvre d'Alain si on le présentait uniquement comme artiste, pas juste comme photographe. Mais tout cela n'avait aucune importance pour Alain. Il était photographe, certaines de ses photos sont artistiques, d'autres sont journalistiques. Ce qui compte, c'est que son œuvre soit un témoignage de son époque. Certaines de ses photographies sont devenues des icônes, elles sont entrées dans la mémoire populaire. Des photos d'Hendrix ou de The Cure, prises par Alain Dister, trônent encore dans des chambres d'adolescents aujourd'hui. Je me suis longtemps interrogé sur ce phénomène. Comment une photo devient une icône ? Tess Rimbaud, iconographe, fait partie des personnes qui créent ces images iconiques en les publiant dans un journal, en les diffusant sur les réseaux sociaux.
Donc, je m'appelle Tess, j'ai 28 ans et je travaille à Libé depuis 3 ans et demi.
Est-ce qu'aujourd'hui, certaines des images que vont conserver tes lecteurs, ce sont plus des images d'Instagram, ce sont plus des images des réseaux sociaux que d'images de photographie traditionnelles ? Est-ce que dans la mémoire collective des lecteurs de Libé, il y a plus ce type d'image ?
Non, je pense pas. Par contre, le fait de publier, nous, sur Instagram ou sur des réseaux, des photos dites classiques de reportage, par exemple, un autre photographe à nous, Cyril Zanettacci, qui a beaucoup travaillé, par exemple, sur les violences, quand il y a eu l'affaire Théo, à Bobigny, etc., les manifs, on publie des images dans le journal et on va les publier sur l'Instagram de Libération. Et finalement, c'est triste à dire, mais on a beaucoup plus de gens qui vont le voir sur l'Instagram que dans le journal. Parce qu'on doit avoir, je ne sais pas, plus de 100 000 followers et puis on n'a pas autant de lecteurs que ça. Donc ça aide aussi, ce genre de réseau aide une image à s'inscrire dans la mémoire collective. Mais une image qui a été produite de manière classique.
Mais il n'y a pas de peur de cette disparition de la mémoire photographique d'aujourd'hui ?
Bon, je pense qu'il y a la même peur qu'il y a toujours eu. Enfin, finalement, il y a très très peu d'images qui restent. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes images qui restent maintenant qu'autrefois. Quelque chose qui me marque beaucoup aujourd'hui, c'est que, en fait, il y a beaucoup d'images qui sont, c'est souvent des images drôles, mais qui sont récupérées et transformées en mèmes par les internautes. Et ça, je pense qu'au début du phénomène, ça a frustré et gêné beaucoup de photographes qui se disaient « mais mon image m'échappe totalement, je perds le contrôle, elle est récupérée par des internautes qui en font n'importe quoi ». Enfin, je me souviens notamment un photographe qui s'appelle Ed Alcock qui avait pris Ségolène Royal en Marianne. Et cette photo avait été réutilisée par plein d'internautes dans plein de positions rigolotes, dans du Star Wars. Enfin, et même en termes de droits d'auteur, tu te poses des questions et finalement, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement positif et intéressant, que l'image n'appartient pas qu'au photographe qui l'a faite, elle appartient à tout le monde et aussi dans la réinterprétation qu'elle peut avoir, quoi. Et c'est aussi des images qui vont rester finalement, mais plus par son aspect même que par l'image originelle. Je trouve que c'est un enrichissement de l'image, je pense pas que ce soit une perte de quoi que ce soit.
Vous écoutez l'Atelier des médias, vous êtes sur Radio France Internationale. Aujourd'hui, la mémoire des images, un essai radiophonique signé Arnaud Contreras.
On écoutera tout à l'heure le témoignage de Bobby, photographe avec qui Tess Rimbaud, que l'on vient d'entendre, travaille souvent. Mais revenons à Michel Poivert. L'historien est lui aussi confronté à un problème auquel j'ai souvent été exposé. Quelles images d'Alain faut-il montrer ? Est-ce que la sélection qu'il a faite de ses meilleures photos était la bonne ? Face aux milliers d'images, de négatifs, j'ai souvent été tenté de montrer d'autres images que celles qu'Alain avait sélectionnées pour des livres, des expositions, des journaux. Et finalement, est-ce que ce n'est pas l'image publiée qui est la plus importante ? Est-ce que ce n'est pas le support papier qui, lui, est le plus important ?
On a aujourd'hui, à la faveur de la passion pour l'histoire culturelle, on monte beaucoup d'images de presse, on monte beaucoup de journaux, c'est passionnant. On fait une histoire des médias photographiques. Mais quant à faire l'histoire des photographes, c'est autre chose. Les photographes, ce sont des gens qui sont habités par cette conscience malheureuse que très très peu de leurs images ont été montrées. Dans le monde du photojournalisme, c'est une sur combien ? Des milliers. Alors des fois, ça fait leur renommée, mais pas toujours dans le bon sens. C'est-à-dire que vous allez avoir un photographe qui va dire « Ah, j'ai fait une image qui a fait la une de tous les magazines, mais finalement, celle d'à côté, elle était plus belle. » Mais elle n'avait pas de vertu commerciale. Ou la photographie qu'on a publiée, elle était très bien, mais elle a été recadrée, c'est dommage. Et le photographe, lui, il avait pensé son cadre, il avait pensé sa profondeur de champ, même dans l'action. Et donc je pense que il y a un territoire de recherche absolument monumental dans l'image de presse, en allant dans les archives des photographes, en laissant peut-être les archives des journaux, à une partie de l'approche de l'image de presse. Mais moi, mon combat, si je puis dire, avec l'œuvre de Gilles Caron, c'était de dire, mais nous ne connaissons pas le photographe, nous connaissons l'homme de presse, dont quelques dizaines d'images ont fait le tour de la planète. Mais quand on va dans les archives, grâce aux planches contact, aux négatifs numérisés, on découvre la face immergée, on dirait, du photographe. Et je pense qu'une autre histoire de la photographie se dessinera sur cette base-là.
Michel Poivert, est-ce qu'il y a une histoire de la photographie qui est en train de se créer aussi autour des applications du type Instagram ? Est-ce qu'il y a une mémoire photographique qui se crée ? Ou est-ce qu'on est uniquement dans l'instantané ?
Je dirais que c'est peut-être plus les aujourd'hui quasiment les sociologues qui pourraient répondre à ça, parce que ce qu'André Gunther appelle l'image partagée, c'est-à-dire finalement cette économie sociale de la photographie numérique, qui passe par la presse, qui passe par maintenant effectivement tous les supports des réseaux sociaux. On le disait tout à l'heure, il y a un côté éphémère, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment elles seront conservées, si elles nous seront préservées, si elles seront transmises dans le temps, jusqu'à quand, etc. Mais indépendamment de ces questions, comment on l'étudie ? Et aujourd'hui, je pense que le temps de l'étude, là on étudie, je pense, des symptômes, une économie, une logique, le côté performatif de ces images, ce qu'elles produisent, leur sociabilité. C'est pour ça que je pense que c'est une question anthropologique et culturelle majeure, notre relation aux images, mais qui demande un peu de profondeur de temps et non pas de champ, hein, pour pouvoir dire finalement à la fois de quoi il retourne et quels en sont les usages et qu'est-ce qui va en rester. C'est-à-dire d'une manière pragmatique, qu'est-ce qui va en rester ? Qu'est-ce qu'on pourra en dire ?
Instagram ferme demain, décide de mettre la clé sous la porte. Il y a quand même toute une partie de la mémoire photographique de notre époque qui disparaît.
Alors c'est la question finalement de l'éditeur. Je pense que beaucoup d'usagers des réseaux sociaux, quels qu'ils soient, où on met des images, quelles qu'elles soient, sont des éditeurs. Donc bon, alors ça ferme, à mon avis, de deux choses l'une. Soit toutes ces images ont une valeur économique et ça va réouvrir d'une autre manière, soit elles n'en ont pas et il y aura une grande disparition. Ça, vraiment, très très difficile de spéculer sur cet aspect-là. C'est une mémoire, mais je dirais que c'est un petit peu comme dans l'ordinateur, pour reprendre une métaphore, il y a la mémoire vive, et puis il y a le disque dur. Et je crois qu'on est dans la période de la mémoire vive, c'est-à-dire que les images s'affichent, on les regarde, on nourrit, on les partage, on les commente, elles ont une vraie vie tout à fait passionnante. Je pense qu'il y a des grands photographes d'aujourd'hui qui existent grâce à ces supports, qui sont très désinhibants, parce qu'on peut aller vite, parce qu'on peut explorer. Je pense que ceux qui postent aujourd'hui sur Instagram des images dans lesquelles ils projettent de la créativité et de l'intérêt, s'en servent comme un outil, mais conservent déjà. Et puis, probablement toute une partie de gens qui sont dans une pratique qu'on appellerait amateur, mais pour moi qui est même plus que de l'amateur, qui est vraiment de l'usager jusqu'à la désinvolture, c'est-à-dire tiens, je fais une photo, je la mets, ça disparaîtra. Alors est-ce qu'il va y avoir une espèce de logique dont on ne sait pas quel serait l'auteur, qui fait que va y avoir une évaporation naturelle ? Probablement. Ce que j'observe, c'est que chez mes amis photographes ou qui ont un certain talent, Instagram est un outil dont ils ont en amont déjà préservé le contenu.
Il y a un photographe de rock qui s'appelle Richard Bellia, qui est plutôt un photographe documentaire, hein, et qui a pour mantra « le papier vaut de l'or ». Est-ce que ça a un écho pour vous, cette phrase « le papier vaut de l'or » dans le domaine photographique ?
Ah, c'est une belle formule, ouais. Parce que, bon, jusqu'à présent, le papier valait de l'argent, au sens où le papier était argentique. C'est une très très belle formule, j'en serais assez d'accord. plein de choses, c'est-à-dire que je pense que le papier nous préserve de la disparition, je pense qu'il est le lieu de l'expression de l'épreuve grâce au tirage, grâce au tireur, je pense que le papier reste, comme pour la littérature, un formidable outil de diffusion et de partage, je pense qu'il est là où la valeur d'exposition des images se fait, quelle que soit finalement l'installation que ça peut prendre. Oui, le papier vaut de l'or, je suis assez d'accord. Et je mettrai en parallèle cette métaphore avec une métaphore qui a fait long feu, qui était celle de l'or noir que représentaient les gisements d'images numériques. Quand on a lancé l'économie de l'image numérique, je me rappelle qu'on disait, mais attendez, il faut qu'il y ait des lieux de diffusion, il faut qu'il y ait des lieux de préservation. La photographie, c'est un gisement d'or noir, c'est comme le pétrole, c'est quelque chose qui va, grâce au droit, à l'image, enfin le droit des images, le droit des auteurs. On a vu des entreprises racheter massivement des archives de journaux, des archives d'agences photographiques, de les préserver, de les emmurer. C'était vraiment demain, l'image, ce sera l'or noir. Et ça, je crois que ça a fait long feu. Je crois que non. Je crois que ce qu'on observe, malheureusement pour les photographes, c'est que les photographies ne valent rien, ou très peu, si elles ne sont pas sociabilisées sous la valeur de l'auteur, c'est-à-dire de l'artiste. Et ça, c'est un pied de nez que nous fait l'histoire de l'art. C'est-à-dire que finalement, et j'en suis un partisan, moi, mon mantra, c'est de dire que finalement, la photographie a l'histoire de ses valeurs changeantes. C'est pas une histoire économique, c'est-à-dire que la photographie, elle a plusieurs valeurs à différents moments donnés de son histoire. Valeur d'authenticité, valeur patrimoniale, etc. Valeur esthétique, valeur familiale. Et là, je crois que finalement, on s'est un peu mis le doigt dans l'œil, si je puis dire. C'est que tout est fait aujourd'hui pour que la photographie n'ait pas plus de valeur que ça. Un photographe, un tireur, un imprimeur, un éditeur sont des détenteurs de savoir-faire et ces savoir-faire valent quelque chose. Espérons qu'un jour, ça vale de l'or. En tout cas, le seul endroit identifié et repéré aujourd'hui où la photographie vaut quelque chose, c'est le domaine de la création artistique. Alors, on peut dire que c'est une niche, mais c'est une réalité.
La mémoire collective est sans pitié, y compris dans la photographie. On ne se souvient que des grands noms, de ceux qui marquent leur époque, pendant leur époque. Certes, on découvre une fois tous les 5 ans une star de la photographie, méconnue de son vivant. Mais pour la grande majorité des photographes, l'oubli est l'usage. Combien de photographes documentaires, de photographes de rock, de portraitistes tombent dans l'oubli ? Un jour, un commissaire d'exposition des Rencontres d'Arles, où l'on avait réussi à organiser une exposition des photographies d'Alain, m'a dit « En photo, t'as pas le choix. Soit t'es une star de ton vivant, soit t'es presque rien. » Je lui avais demandé s'il considérait que l'œuvre d'Alain, c'était presque rien. Il m'a répondu « Non, elle est pleine d'espoir. » Au fil des mois, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y a une distance considérable entre le monde de la photographie et les photographes, alors qu'il y a une proximité incroyable entre les photographes et leur public grâce aux réseaux sociaux. C'est en partie pour cela que je voulais rencontrer Boris Alain, connu sous le nom de Bobby, jeune photographe qui, selon ses propres termes, a tout compris d'Instagram, le réseau social de partage d'images.
Je suis Boris Alain, j'ai 27 ans, je suis photographe indépendant et je travaille notamment pour Libération, Grazia, Les Inrock, Universal Music et d'autres marques.
Ce matin, sur ton compte Twitter, tu as affiché une image d'un disque dur qui avait crashé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Alors, en fait, j'ai acheté 2 disques durs il y a quelques jours. Et en fait, j'ai même pas pu les crasher. En fait, je voulais les formater pour enregistrer des nouvelles photos dessus. Parce que là, le dernier que j'ai acheté il y a 3 mois est déjà complet. Et impossible de formater, en fait. C'est un peu bête, quoi. Du coup, je peux même pas mettre d'image dessus, quoi, sur celui-là.
Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive souvent, d'avoir des problèmes quant à la mémoire de tes images, quant à la conservation de tes images ?
Ouais, j'ai déjà eu quelques problèmes avec des disques durs. En fait, il y a eu un peu un élément déclencheur, c'est que j'avais un disque dur. À un moment, je faisais une affiche de tournée pour Kenji. Et c'est un peu ridicule, mais j'étais aux toilettes, et parce que j'aime bien faire de l'ordinateur aux toilettes. Donc j'avais mon ordinateur sur moi, sur mes cuisses pendant que j'étais aux toilettes. Et j'étais en train de retoucher l'image, et là, le disque dur est tombé de 50 cm. Et en fait, j'ai perdu la fiche de tournée plus toutes les autres images que j'avais sur mon disque dur. Et j'avais pas de copie. Et donc, depuis ce moment-là, là, je me suis dit faut que j'achète 2 disques durs à chaque fois, que je double, que je prenne des marques différentes pour essayer de conserver. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était extrêmement fragile, les disques durs, les données numériques. On croit que c'est éternel, on croit que ça dure plus longtemps que le papier ou que la pellicule. Et finalement, on se rend compte qu'il suffit de les faire tomber de 50 cm depuis son toilette pour perdre toutes ses photos.
Bobby, est-ce que ça fait partie de ta vie, cette idée que tu conserves ou que tu puisses perdre tes photos? Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête en permanence?
Ça fait partie, ouais, c'est une grosse partie du travail de photographe. Dans mon cas, elle est souvent double, voire triple. C'est parce que, comme je te l'ai dit, j'ai déjà deux disques durs bien distincts où j'essaie de copier en double. Pour s'il y en a un qui crache, j'ai l'autre. Et ça m'arrive aussi de faire mes portraits, par exemple, pour Libération sur pellicule. Et dans ce cas-là, c'est un peu une troisième conservation. Du coup, ouais, j'ai la conservation numérique et analogique. Et c'est vrai que c'est complémentaire, je trouve. Moi, j'aime bien quand je suis, par exemple, en portrait d'air pour Libé, toujours faire quelques photos en numérique, puis enchaîner avec de l'argentique. Parce que même le rapport, quand tu vois tes images, n'est pas le même, quoi. Même si j'arrive à les voir en avant avec le numérique, quand je les retrouve sur pellicule, c'est autre chose, c'est quelque chose de plus concret.
Est-ce que tu as confiance dans les outils numériques, dans cette conservation digitale?
La confiance dans le digital, elle est dure parce qu'en fait, déjà on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Enfin, c'est basique de dire ça, mais le papier, on sait que ça peut durer 1500 ans. On retrouve des manuscrits qui sont en très bonne conservation. Du coup, le numérique, c'est... En fait, le problème, c'est que le numérique, on le teste que maintenant, au final. On est encore dans une phase de test, je pense. Dans la mesure où on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Et dans l'autre mesure aussi, c'est que les formats varient vachement, quoi. Ceux qui ont enregistré des photos sur disquette, maintenant, je ne crois pas qu'il y en a beaucoup qui puissent les relire, quoi. Et c'est pour ça, du coup, que moi, je double tout maintenant. Genre double, voire triplé.
Tu doubles en argentique?
Bah ouais, en argentique, j'ai aussi les numérisations des négatifs. Après, le principal, quand même, c'est quand même d'essayer de garder son négatif, même s'il m'arrive de les perdre, parce que je suis quand même un peu un sagouin et je range ça un peu n'importe comment. Enfin, j'essaie de me discipliner à ranger un peu mieux, mais genre chez moi, c'est l'enfer. Hein. Il y a des sacs remplis de négatifs dans la pochette cristal qui sont pas archivés, qui sont pas rangés. Du coup, j'essaie de choper des stagiaires pour le faire. Mais c'est très problématique. Et pourtant, j'essaie de me discipliner. J'essaie d'avoir des disques durs en double. J'essaie de faire la numérisation, de tout bien ranger par ordre. Ma technique, c'est je prends une enveloppe, je mets les négatifs dedans. Sur l'enveloppe, il y a marqué si c'est du noir et blanc, de la couleur, le lieu, la personne, le format. Mais ça demande un temps énorme. Au final, ça demande. Enfin, l'archivage, c'est vraiment. Je pense que c'est aussi important que de faire de la photo parce que. C'est bien d'avoir fait la photo, mais si on n'arrive pas à la garder, on est un peu bête. Genre, moi, j'ai des photos que j'adore, que je sais que j'ai perdu définitivement ou qu'il me reste qu'un fichier numérique d'un négatif. Du coup, ça fend un peu le cœur. J'ai un portrait de Laetitia Casta et je sais que j'avais fait qu'une seule photo sur pellicule. Et j'ai perdu ce négatif et il me reste que le fichier numérique. Du coup, quand j'y repense, je suis un peu triste quand même.
Et pourquoi est-ce que tu passes pas en argentique? Parce que si tu as plus confiance dans l'argentique et dans la conservation de l'argentique, pourquoi est-ce que tu paries pas sur ce médium-là?
D'abord parce que le métier m'oblige à être rapide. Quand, par exemple, je fais de l'actualité pour Libération, des fois on m'envoie à 18h et il faut une pour 19h30. Donc en argentique, c'est un peu compliqué. Puis après, il y a des avantages. Hein. Moi, j'aime bien travailler avec les deux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'immédiateté dans le travail que je fais. Quand je travaille pour des groupes aussi, ils veulent souvent avoir la photo de suite pour la publier sur les réseaux. Le métier aussi a quand même beaucoup changé. On est vraiment dépendant, je trouve, des réseaux. Moi, après, j'aime bien ça. C'est un truc que j'adore. J'adore voir aussi l'immédiateté de la photo.
Tu fais moins de photos, j'imagine, en argentique qu'en numérique, mais tu fais énormément de photos quand même. Ouais. Est-ce que c'est si important de conserver toutes ces photos?
Je pense que je me pose toujours cette question de est-ce que c'est important. Et c'est bizarre, en fait. Je pense que suivant mon âge ou... mon métier ou où j'en suis, je trouve que c'est important et c'est pas important. C'est bizarre, quand j'étais au début, je trouvais ça ultra important, mais vraiment. Et là, au plus je me dis, c'est peut-être moins, pas si important que ça. Peut-être que, en fait, c'est juste un délire personnel de se dire que nos images, elles resteront. Et que je suis un peu fataliste par rapport à ça et je me dis qu'au final, elles vont pas rester parce que il y a tellement d'images maintenant qui sont produites, il y a tellement de. Enfin, c'est tellement spontané qu'au final, c'est bien parce que. T'as une image qui va ressortir d'un coup, qui va être beaucoup partagée, qui va être beaucoup aimée. Mais au final, elle va être remplacée dans 10 minutes, dans une heure, dans un jour, par une autre photo qui sera aussi autant aimée, voire plus, qui aura eu le buzz, qui n'a pas forcément des très grandes qualités graphiques, esthétiques, mais qui a la bonne personne ou la bonne signification et qui va balayer les autres. Et c'est vrai que là, sur la mémoire de la photo, moi, je me pose des questions. Des fois, je me fais des petits jeux avec moi-même. Si demain je mourais, qu'est-ce qu'on retiendrait de mes photos? Et après, c'est aussi. Après, j'ai que 27 ans, donc je pense pas qu'on en retiendrait non plus énormément. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les photos, elles restent moins qu'avant. Mais peut-être parce qu'aussi, il y en a beaucoup plus qu'avant. Du coup, c'est plus dur d'en retenir. Mais quand tu vois comment j'archive, je me dis peut-être. Mais moi, je suis désabusé. Je me dis bon, bah, quoi bon. Autant profiter de ce qui arrive maintenant. D'adorer, de voir le résultat, de voir les retours et tout, et de ne pas penser à la suite, en fait. Je crois qu'en ce moment, je suis un peu plus dans ce truc-là, de me dire je kiffe tout ce qui arrive maintenant. Enfin, il y a des peintres qui n'ont jamais eu le succès. Leur succès, ils l'ont eu après leur mort. Et là, entre guillemets, si on peut parler de succès, c'est toute proportion gardée. Mais au final, là, moi, c'est quand même bien avec les réseaux, c'est qu'on profite directement, on récolte les lauriers plus rapidement, quoi.
Est-ce que dans ta vie privée, tu as cette idée aussi de conservation? Parce que là, on parle de ton travail professionnel, de photographe pour Libération, pour un certain nombre de médias. Mais est-ce que dans la vie privée, tu archives? Est-ce que tu fais des albums? Est-ce que tu as cette conscience de conserver? Est-ce que tu mets ça sur un cloud? Est-ce que,
En fait, je ne fais pas d'album, mais je ne sais pas si un jour je serai parent ou pas. Mais je me suis toujours dit que si j'étais parent, je kifferais faire... Faire des albums avec mes enfants, genre avoir des boîtes à chaussures remplies de photos. Parce que, mais après, c'est peut-être nostalgique, hein, mais moi, mes parents, ils ont des boîtes entières remplies de photos, faites au jetable et tout. Et en plus, quand on regarde ces photos, je trouve qu'elles ont vraiment un truc de particulier. Maintenant, on fait des milliers de photos avec l'iPhone, moi le premier. Hein. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je le fais pas. Des fois, j'imprime des photos, je les colle sur les murs et tout, pour histoire de voir mes potes. Mais mon archive, en fait. Paradoxalement, avec tout ce que je dis sur le numérique et tout, je crois qu'actuellement mon archive préférée, c'est Instagram. C'est peut-être là où je mets le plus de trucs de ma vie personnelle, mais c'est mêlé aussi avec le travail, en fait. Mais c'est vrai que même là, quand on me demande un portfolio ou quoi, je renvoie vers mon Instagram. Quand on me demande, même un client, hein, genre il me demande ouais, il nous faudrait ça pour voir un peu ce que tu sais faire, va voir sur mon Instagram. Et c'est un peu paradoxal parce que, après, moi j'essaie de mettre que des photos de qualité sur mon Insta, mais tu peux avoir de tout. Hein. Genre, tu peux avoir, je sais pas moi, NTM, et à côté, t'as mon pote qui est en train de vomir. Quoi. Mais après, ça fait aussi partie de moi. Donc, je trouve ça cool que les gens aussi qui m'embauchent puissent voir que je suis capable de faire des super belles photos de concert ou rendre Mélenchon très agréable. Et qu'à côté, je fasse une photo de mon pote en train de vomir qui est aussi très agréable au final, qui dégoûte pas tant que ça. Et que ça fasse partie de moi, comme ça au moins tu sais un peu à qui tu t'attends quand tu embauches le personnage.
C'était La mémoire des images, un essai radiophonique que tu signes Arnaud Contreras, et c'est pour toi le mot de la fin. Lâche ton téléphone.
Ben non, je viens de te prendre en photo, tu vois, je sais pas ce que va devenir cette image. Bon, je vais te l'envoyer sur WhatsApp certainement, et peu importe ce qu'elle va devenir, ce qui compte c'est que tu l'es. Ce qui compte c'est qu'elle devienne pas forcément une icône, mais si elle devient une icône, tant mieux. On s'en fiche un petit peu de cette mémoire des images. Et c'est un petit peu tout le sens en fait de cette quête, c'est on a appris plein de choses, c'est une histoire qui nous concerne tous, et je sais qu'on l'a beaucoup dit, mais c'est tellement universel, ces histoires de partage d'images. Et cette photo que je viens de prendre, que je vais t'envoyer, elle va avoir une histoire, elle va avoir une histoire qui nous concerne tous les deux, qui concerne Simon, qui est derrière aussi la console. Mais c'est peut-être une image qui va devenir un jour une icône.
Ça me fait penser à cette idée d'image sociale et d'image conversationnelle que défend un invité qu'on a eu régulièrement qui s'appelle André Gunther. Et finalement, la question que tu poses en prenant cette image, c'est quelle est la postérité de l'image conversationnelle, et est-ce que c'est nécessaire d'avoir une postérité pour l'image conversationnelle aujourd'hui?
Je suis pas sûr, et c'est aussi le sens même des réseaux sociaux, des réseaux qui font de la disparition aussi. On a beaucoup entendu qu'il y avait une histoire de disparition de l'image. C'est beau aussi qu'une conversation comme la radio parte sur les ondes et puis que ça disparaisse après.
Merci Arnaud. L'atelier, c'est chaque semaine, le samedi, sur Radio France Internationale. C'est aussi un podcast disponible sur toute bonne application de podcast. Et c'est signé Léo Caravagna, Camille Sarrazin, qui vient de nous rejoindre, bienvenue à elle, Camille Deloche, Simon Decreuse et Ziane Malouf. Salut à toutes et à tous.